France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Bonjour Angelin, près de Jocage.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, plutôt pas mal, oui.
Plutôt pas mal. Chorégraphe, directeur artistique du ballet près de Jocage. On a le plaisir de vous recevoir ce matin dans Musique Matin sur France Musique. On écoutait ici un extrait du Sacrifice, deuxième tableau du Sacre du Printemps de Stravinsky. Stravinsky, rencontre déterminante pour vous?
Rencontre surtout avec Daniel Barenboim, d'ailleurs, dont vous avez choisi
ici,
la version.
La direction de l'Orchestre de Paris.
Tout à fait d'à-propos, parce que c'est lui qui m'a proposé de créer ce Sacre du Printemps. Enfin, le mien.
Le vôtre, votre
pas
vision.
Pas celui de Nijinsky. Voilà, alors même que moi, j'avais quelques réticences à remonter le sacre. Parce que
pourquoi
je pense,
donc?
Parce qu'il y en a dans les centaines qu'il y a eu de remontées depuis la création de Nijinsky. Il y a 2-3 chefs-d'œuvre et bon, à un moment, on est toujours en comparaison. Et je me disais, pourquoi offrir le flanc à ça? Et surtout, je me disais, tout a été dit hein, sur le sacre. Et c'est Daniel Barenboim qui m'a dit, mais non, tu sais, le sacre, c'est une musique tellement forte, qui parle à la fois d'un sujet universel, mais qui implique aussi, évidemment, quelque chose à chaque fois de singulier par rapport au créateur lui-même. C'est-à-dire que c'est à la fois universel et en même temps intime. Et c'est ça qui est formidable dans cette partition. Et c'est réellement ça qu'on peut voir dans tous les sacres, c'est qu'on peut ne pas aimer telle ou telle version, mais on trouve toujours à chaque fois quelque chose de différent et qui singularise le créateur du ballet, en fait.
Et qu'est-ce qui a été différent chez vous? Parce que ça remonte un petit peu, hein, c'est en 2001, cette création.
Alors moi, j'ai eu un parti pris qui consistait à faire de l'élu non pas une victime, puisque souvent, à la fin, sur le dernier accord, l'élu s'effondre au sol, terrassé un peu par ce rituel. Et moi, j'ai plutôt eu envie d'en faire une sorte de résiliente, de quelqu'un qui prend son destin en main et qui décide, à travers cet événement, de s'affirmer, d'affirmer une puissance, mais je dirais presque au sens philosophique, de réaliser sa puissance, en fait, à travers ce rituel, qui est un rituel qui relance l'idée de la fécondation dans la tribu, en fait, et donc c'était ça un peu l'enjeu.
Et tiens, cette vision d'un personnage qui se bat finalement.
Oui. C'est-à-dire, c'est qu'on croit.
Un personnage dans lequel vous pouvez vous retrouver, Angelin, près de Jocage.
Oui, ben c'est vrai que la danse a toujours été un art de combat pour moi, parce que ça a commencé très petit, puisque moi j'étais enfant d'immigrés albanais, élevé dans les cités à Champigny-sur-Marne. Quand j'ai voulu danser, ma première dispute a été avec mes parents, et ensuite ma confrontation avec les gars de la banlieue de ma cité, c'était tout de suite des quolibets, des critiques, des rires sous cap, etc. Et donc il a fallu vraiment que j'affirme ça comme une volonté, et à chaque fois c'était un combat.
Au sein de votre ballet, il y a un ballet junior. Vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui quand ces jeunes danseurs évoquent leur parcours, leur début de danseur? Est-ce que c'est difficile d'être un jeune danseur?
Non, je crois. Bon, c'est difficile de toute façon d'être un danseur. Mais
pourquoi?
Physiquement, d'abord, parce que on se rend pas compte, mais le corps. Enfin, si, on s'en rend compte, sûrement. Mais le corps a une tendance plutôt à vouloir trouver le repos, la quiétude. Mais c'est naturel. C'est même les animaux. Les animaux, quand ils bougent, c'est pour aller manger. C'est pas parce qu'ils ont envie de faire de l'exercice. Donc, on est bien là au cœur du sujet, c'est-à-dire que bouger, il faut que ce soit une vraie volonté et un désir profond au-delà des instincts primaires, nourrir, la sexualité, la reproduction, voilà, boire, enfin voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire que de danser ou faire du sport, c'est toujours un effort sur soi-même, et donc voilà, à travers ça, c'est vrai.
Et dans le regard des autres, aujourd'hui?
Alors, pour venir à la question du regard des autres, aujourd'hui, le statut de la danse a quand même énormément évolué par rapport aux années 70 où moi je faisais de la danse. Dans les banlieues aujourd'hui, on a le hip-hop qui est vraiment un facteur de libération corporelle très très fort et de désinhibition aussi. Et donc maintenant, l'idée de la danse chez les garçons et en général a pris ses lettres de noblesse et
est mieux perçue,
voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'était très difficile, mais bon.
Vous avez déjà approché le hip-hop dans l'une ou l'autre de vos créations?
Oui, j'ai travaillé à Suresnes. J'ai fait une création avec 4 danseuses de hip-hop qui s'appelle Royaume-Uni, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler.
Et parmi danseurs, parce que vous avez une troupe à l'image finalement de ces ballets russes, hein, on écoutait ici ça du printemps. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup joué dans la manière dont vous avez agencé, créé votre propre compagnie. D'ailleurs, je crois que vous utilisez le mot ballet plutôt que compagnie.
Oui, oui, comme ça c'est clair. Hein, parce que c'est, au début,
c'est quoi la différence entre une compagnie et un ballet?
Quand j'ai commencé, c'était compagnie. Alors les gens me disaient, mais c'est une compagnie de quoi, d'assurance ou je sais pas. Je dis, bah non, on fait de la danse, tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire du mot ballet. En fait, c'est groupe de gens réunis autour de l'idée de faire de la danse, etc. Donc je me suis dit, mais c'est ça qu'on fait, en fait. Alors bien sûr, après, il y a d'autres significations, mais le principal, c'est ça. C'est un groupe de gens qui se réunit pour danser. Hein, voilà. Donc je me suis dit, ben voilà, ballet, c'est bien.
Le final du premier acte du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, Némir Vi, à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Bergen. Ça, c'est votre choix, Angelin Prêt-Jocage.
Bah, ça tombe bien dans le déroulé de ce dont on est en train de parler. Donc,
c'est
il y a le ballet.
C'est un petit peu fait exprès quand même.
Bravo, vous êtes très forte. Le ballet, donc, c'est une troupe, mais c'est aussi une œuvre. Donc là, on est face. C'est le ballet avec un grand L et un grand B. C'est le ballet emblématique, en fait, de ce qu'est la danse, de ce que représente la danse dans l'inconscient collectif aussi. Si on dit à quelqu'un, citez-moi un ballet, c'est en grande partie les gens. Je pense que c'est le Lac des Cygnes qui arrive. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce choix. Je trouve la musique, il y a des moments, mais absolument époustouflants. C'est d'une force et d'une beauté évocatrice incroyable. Et voilà, donc je trouve que c'est pas mal, c'est assez réussi, musicalement.
Absolument. Quelles sont les musiques, justement, qui vous touchent plus particulièrement, mis à part ce Lac des Cygnes?
Oh ben, je sais pas, Stockhausen aussi, mais évidemment, mais ou John Cage, ou... mais énormément de choses. Stravinsky, c'est sûr. J'ai fait plusieurs œuvres de Stravinsky. Les Noces, c'est une merveille. C'est une sorte de... C'est drôle, quand on entend les noces, on a l'impression d'une espèce de chaos vocal et rythmique, avec des percussions, des pianos qui jouent, qui scandent des notes avec une puissance comme ça. On a l'impression d'un chaos. En réalité, quand on regarde la partition, c'est écrit comme une cathédrale, c'est extrêmement ciselé. Donc c'est drôle, ce contraste entre cette écriture précise et la sensation de déferlement et de puissance presque barbare de ces noces.
Angelin Préjocage, vous parlez d'écriture. J'aimerais évoquer avec vous ce fameux sujet de la notation, finalement, chorégraphique. Oui. Est-ce que c'est encore rare aujourd'hui d'utiliser la notation dans le domaine de la danse?
Oui, mais en même temps, déjà, on voit que, par exemple, au Conservatoire National de Paris, depuis quelques années, c'est rentré dans le cursus de formation et on peut apprendre la notation, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Donc, je vois qu'il y a des choses qui bougent, ça évolue. Il n'y a pas encore beaucoup de compagnies en France qui l'utilisent. Bon, en gros, il y a nous, voilà, c'est tout. Pourquoi ? Parce que je pense que, d'abord, ça, c'est un coût, ça veut dire qu'il faut faire un choix.
Oui, je crois que j'ai lu que c'était 8 à 10 heures de travail pour écrire une minute de danse.
Voilà, mais après, une fois qu'elle est écrite, on l'a. Ça, c'est... c'est un coût. Alors, à un moment, je me suis dit, je vais mettre peut-être moins d'argent dans la décoration ou dans des costumes ou quoi, mais je vais mettre plus. Je vais investir dans l'idée de garder.
Et vous avez été jusqu'à investir dans le sens d'engager une personne
qui est
choréologue.
Voilà, Dany Lévesque travaille avec moi depuis plus de 20 ans et elle note toutes mes pièces. Alors, c'est dans l'idée pour moi, l'interprétation passe par l'écriture. C'est-à-dire que je me rappelle tout simplement que quand j'étais danseur et quand j'apprenais un ballet du répertoire, on me montrait une vidéo, on me disait « Tu vois le gars en rouge là-bas, tu fais tout comme lui. » Donc à ce moment-là, j'étais très choqué parce que je me disais « Où est-ce que commence l'imitation et où commence l'interprétation, où s'arrête l'imitation, etc. » Donc il y a un vrai problème là d'éthique sur cette idée d'interpréter.
Justement, est-ce qu'avec la notation, finalement, on déshabille pour revenir à la source du geste, finalement,
voilà.
On retire l'interprétation?
Voilà, c'est un peu comme en musique. Vous avez écrit fa dièse, c'est un fa dièse. Vous jouez le fa dièse, mais vous pouvez jouer ce fa dièse de tellement de manières différentes. Alors que si on vous met un disque, imaginez un jeune pianiste, et on lui dit, voilà, variation Goldberg, à toi. Si on lui donne un disque, il va dire, mais... Est-ce que Bach a mis une croche pointée ou bien où est-ce que c'est l'interprète qui lui à ce moment-là a ralenti le tempo, je sais pas. Et donc c'est là qu'on voit que ne pas avoir d'écriture, c'est s'éloigner de la possibilité de développer l'interprétation en fait, parce qu'on risque de dupliquer, de faire de la duplication et de ne pas avancer. Et je crois qu'une œuvre prend sa force dans les différentes strates d'interprétation qui la nourrissent. Un peu comme un millefeuille qui finit par prendre une telle épaisseur et une force à travers des générations, des interprètes différents qui vont chacun apporter leur vision, leur sensibilité par rapport à ça. Ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, une œuvre de Mozart, on ne la joue pas de la même manière, parce qu'elle est nourrie de tout ça, de tous ces siècles, de tous ces gens qui ont donné leur vision, leur version. Et c'est pour ça que, voilà, c'est comme ça que les choses prennent de la force et du poids, oui.
C'est ça que j'allais vous demander. On note la musique finalement depuis des siècles. Pour la danse, c'est un peu plus neuf, on va dire. C'est une manière aussi de laisser des traces.
Oui, mais c'est plus cette idée de donner ces lettres de noblesse à la danse, puisqu'on est dans une société, une civilisation surtout de l'écrit. On le dit souvent que les paroles s'envolent, les écrits restent. Les mouvements aussi s'envolent, les écrits restent, les mouvements des... Et je crois que donner une écriture à la danse, c'est lui rendre la mémoire. Et je crois que c'est important que la danse ait une mémoire. C'est Martine Kahan à l'Opéra de Paris qui m'avait dit « Angelin, s'il te plaît, donne-nous des traces. » Parce que les historiens de la danse et les gens qui s'occupent justement de tout ça, parfois ils retrouvent des petits bouts de papier sur des purs chefs-d'œuvre et ils savent pas comment illustrer, comment remonter, comment reconstruire des choses. La reconstitution du Sacre du Printemps de Nijinsky a pris des années.
Est-ce que vous notez que vos chorégraphies à vous ou est-ce que vous Vous agissez de même pour des chorégraphies d'autres chorégraphes plus anciens.
Non, malheureusement, j'ai pas les moyens de faire renoter des chorégraphies des autres, donc je me concentre. Oh,
vous avez quand
même
créé un centre de notation de danse à Château-Vallon.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut que chacun fasse le travail qu'il a à faire concernant la mémoire, mais que ce soit aussi. Voilà. Thank you.
L'Andante Moderato, deuxième mouvement de la deuxième symphonie, symphonie Résurrection de Gustav Mahler, par Valérie Gergiev et l'Orchestre Philharmonique de Munich. Des symphonies de Mahler que vous avez explorées, Angelin Prelt-Jocage, notamment en 2008 dans ce grand ballet romantique contemporain Blanche-Neige, sur des extraits justement de ces symphonies. Mm-hmm. Là, tiens, pourquoi Gustav Mahler ?
Parce que quand j'ai commencé à travailler sur Blanche-Neige, je voulais retourner vraiment aux Frères Grimm et m'éloigner un peu de Walt Disney, il faut bien le dire, puisque à l'époque c'était une des références principales que les gens avaient en tête. Et évidemment, j'ai retrouvé toute la puissance du romantisme littéraire, de la littérature allemande. Mais en même temps, avec un côté, puisque les Frères Grimm étaient dans le conte et qu'il y avait quelque chose lié à l'oralité, c'est-à-dire qu'ils retranscrivaient des choses qui étaient transmises par l'oralité. Du coup, ça donne une écriture dans ces contes qui est assez, à la fois, donc, inscrite dans le romantisme allemand, littéraire, mais en même temps avec une sorte de modernité qui nous vient de cette oralité-là. Donc on est dans une sorte de mouvement littéraire hybride, donc une sorte de romantisme contemporain presque. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, musicalement, j'ai écouté plusieurs compositeurs romantiques, mais je me suis arrêté à Mahler parce que je trouvais que vraiment c'est la queue de la comète du romantisme musical allemand, en fait. Mahler annonce déjà Webern, Schönberg, dans ses tessitures, dans ses accords, dans sa construction même. Et du coup, je me disais, voilà, en fait, il y a une vraie convergence entre les Frères Grimm, inscrits dans la littérature romantique, mais avec l'oralité qui les amène dans une modernité, et effectivement, Gustav Mahler, qui lui tire la musique romantique vers le XXe siècle. Et ensuite, évidemment, à l'écoute, j'ai découvert que c'était un royaume. Mahler, c'est absolument incroyable. C'est des paysages. C'est même plus de la musique. On est dans des visions et c'est formidable pour travailler sur un conte.
Ce n'est pas la première fois que vous attaquez un conte. Il y a eu Anour en 1995, Siddhartha en 2010, mm-hmm. et puis Les Nuits en 2013, pièce librement inspirée des contes des Mille et Une Nuits. Est-ce que finalement c'est une manière aussi peut-être d'interroger le présent?
Oui, toujours, parce que je crois que les contes, c'est vraiment, je trouve que c'est très important dans la vie de l'humanité et de l'être humain individuellement, parce que c'est quelque chose qui lui apprend à devenir un adulte, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire d'assumer le monde, d'assumer la vie. Et les contes permettent, c'est une sorte de rite de passage qui font qu'on peut mieux assumer parfois les malheurs, les difficultés et les bonheurs aussi de la vie et du monde. Alors, concernant Blanche-Neige, moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant au moment où je l'ai repris, c'est que je pensais qu'on était exactement, en fait, à l'ère du complexe de Blanche-Neige, comme on en dit le complexe d'Œdipe, etc. C'est-à-dire que Blanche-Neige, c'est l'histoire d'une mère qui veut faire disparaître sa fille parce qu'elle est jalouse, en fait. Et je trouvais que actuellement la société permet l'émergence de ce genre de complexe de Blanche-Neige, parce qu'on voit très bien dans la rue, dans la vie, des femmes d'un certain âge qui sont absolument pleines de leur séduction, de leur beauté, de leur sexualité, de leur sensualité. Et on peut très très bien imaginer, on le voit, des femmes qui marchent avec leur fille de 18 ans et elles sont aussi désirables, aussi intéressantes l'une que l'autre. Elles ont chacune leur puissance. Et donc, on peut très, très bien imaginer qu'on est dans cette ère de Blanche-Neige, du complexe de Blanche-Neige, et que, inconsciemment,
quoi,
une
de
mère...
ne pas accepter l'avancement du temps.
Non, c'est pas ça. C'est cette histoire de nos jours où les femmes, de la même manière que les hommes depuis longtemps, veulent être à la fois mères, à la fois entrepreneuse, écrivaine, je ne sais pas, enfin, ce qu'on veut. Mais c'est-à-dire rester femme et pas devenir une mère, en fait. Et donc, c'est cette question qui est posée à travers Blanche-Neige, je trouve. Et c'est pourquoi je trouvais que c'était un thème extrêmement moderne, en réalité. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure de Blanche-Neige. Et en tirant la dramaturgie dans ce sens-là. C'est-à-dire que le rôle de la méchante reine est aussi important dans mon Blanche-Neige que le rôle de Blanche-Neige.
Que le rôle de Blanche-Neige.
D'ailleurs, elle est somptueuse et voilà.
C'est l'une de vos danseuses de votre compagnie.
Fétiche, voilà.
Voilà. Jusqu'au 22 décembre, au Théâtre National de Chaillot, vous proposez ce spectacle, la fresque, qui s'inspire d'un conte traditionnel chinois, la peinture sur le mur. Je vous propose d'écouter tout d'abord un extrait de cette fresque, musique signée Nicolas Godin. Extrait de la fresque, musique signée, je le disais, Nicolas Godin, que vous connaissez déjà.
Oui, parce que j'ai travaillé avec le groupe R en 1912.
Non, voilà, groupe français de musique électronique.
Voilà, et on avait eu une très très belle collaboration autour d'un spectacle qui s'appelait Near Life Experience. Et quand je me suis attelé à cette fresque, j'ai tout de suite pensé à Nicolas parce que je venais d'entendre son dernier album et que je trouvais très très inventif. Et voilà.
On en écoutait un extrait il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours dans Musique Matin, mélanger finalement, revenir aux sources, à la source, à Jean-Sébastien Bach.
Voilà.
Avec par le biais de l'électro, est-ce que c'est plus facile de d'écrire finalement une chorégraphie sur une partition déjà écrite ou bien de collaborer avec un compositeur vivant?
C'est pas la même aventure, c'est-à-dire que la musique déjà créée c'est une contrainte, mais comme disait Stravinsky, la contrainte c'est la liberté, c'est-à-dire que résoudre certains problèmes liés à la contrainte est un acte créatif d'une certaine manière. Alors après, travailler avec un collaborateur qui fait la musique, parfois sur mesure, mais parfois ça se passe presque de la même manière. C'est-à-dire que Nicolas m'envoyait des sortes d'esquisses, de matières sonores, de rythmes, de mélodies, etc. Et moi, ça faisait résonner quelque chose en moi et je me mettais en route. Et puis parfois, c'était l'inverse. Je lui envoyais des bouts de vidéo. Parfois, je lui envoyais juste un tempo. Je lui disais 127 à la noire et puis fais-moi quelque chose. Et donc, voilà.
Étonne-moi.
Voilà, exactement. Merci, Madame Diaghilev.
Voilà. On entend donc des flûtes, des gongs chinois, des synthés,
oui.
Ce genre d'instrument pour cette pièce, cette fresque donc à voir au Théâtre National de Chaillot. On va revenir à ce conte traditionnel chinois intitulé La peinture sur le mur. Vous pouvez nous expliquer l'histoire?
Alors l'histoire, c'est deux voyageurs qui sont perdus dans la montagne et qui sont recueillis par des moines qui les emmènent dans leur monastère. Et là, il leur montre une fresque magnifique avec des femmes au bord de l'eau. Et l'un des deux protagonistes, des deux randonneurs, si je peux dire, tombe quasiment fou, amoureux de l'une des jeunes filles représentées sur la peinture. Et tout à coup, il se sent aspiré. Il passe de l'autre côté de la toile, du tableau. Il se retrouve dans le tableau. Et puis là, commence une longue vie amoureuse. Et un des détails particuliers de ce conte, c'est qu'en Chine, la tradition veut que les femmes aux cheveux libres, lâchées, sont des femmes qui ne sont pas mariées, célibataires. Et qu'une fois qu'une femme est mariée, en fait, elle arbore le chignon comme nous, on met une alliance. Enfin, voilà. Et donc, lui rentre là, dans la fresque. Il a une grande histoire d'amour avec cette femme. Ils vivent ensemble, ils se marient, etc. Et puis, un jour, il est éjecté de la fresque par un guerrier doré qui vient en frappant, qui dit « On m'a dit qu'un mortel est rentré dans notre univers. » Et il rejette ce voyageur impertinent. Et lui se retrouve à l'extérieur. Et quand il regarde le tableau, il voit que la jeune fille qui avait les cheveux libres, en fait, a déjà un chignon.
A changé de coiffure.
Donc voilà, donc c'est une aventure un peu dans le monde virtuel. Et je trouvais que à l'heure où des générations cherchent des Pokémon Go sur des places de village ou quoi, ou des centres urbains cherchent des petits Pokémon Go qui n'existent pas, on peut très bien imaginer que quelqu'un traverse une toile pour aller s'épandre et s'éprendre d'une belle jeune femme.
Est-ce que la réalité virtuelle immersive, justement, peut pas être au service de la danse ? Jean-Paul Jocage, de positionner le spectateur au milieu des danseurs à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Ça a été déjà fait ?
Oui, déjà. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, la danse a ça de... comme le spectacle vivant en général, c'est qu'on est quand même pas loin d'une réalité virtuelle. Et qu'on est vraiment là.
De quelle
là.
Manière ?
Non, ce que je veux dire, c'est que je crois que ce qui fait la force aujourd'hui du spectacle vivant, c'est que tout se dématérialise. Et donc, il y a peut-être une recherche inconsciente des gens à retrouver vraiment une réalité pas virtuelle, justement. Et à la fois, je trouve intéressant que le spectacle vivant s'équipe de technologies virtuelles, mais je pense que c'est important aussi que le spectateur puisse retrouver le vivant dans le spectacle pour pouvoir sentir
la chair
et puis sentir que ce qui se fait là, c'est en train de se faire, c'est pas quelque chose qu'on vous montre qui a été fait ou fabriqué ou joué déjà en amont. C'est cette question du direct, en fait, aussi. C'est comme un match de foot, on a envie de le voir en direct, on n'a pas envie de revoir le match après, alors qu'on sait que l'équipe a gagné. Donc là, c'est un peu la même chose. On voit le spectacle, c'est en train de se faire devant vous. Donc c'est ça, je trouve, la force du spectacle vivant.
Thank you.
aussi en jouant après le jocage.
Le début de Hélicoptère Quartet de Karlheinz Stockhausen, qui est une de mes œuvres préférées.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que c'est absolument audacieux, c'est incroyable, c'est d'une puissance folle. Et puis, c'était un défi pour la danse. Et moi, j'aime les défis, parce que je trouve que ça repousse nos limites corporelles, nos limites créatives. Et cette aventure avec Stockhausen a été pour moi extrêmement importante. Et voilà.
Avec cet vous alliage, a invité à collaborer.
Oui, cet alliage entre les boyaux, donc très organiques, des cordes, des violons, violoncelle, contrebasse, tout ça, avec le bruit des turbines, donc c'est très technologique. Et ça crée quelque chose de à la fois technologique et organique qui se mélange ensemble et qui crée une énergie extrêmement particulière. Et c'est ça qui m'a fasciné et qui m'a donné envie de faire un ballet, bien que ces bruits de pales qui tournent sans arrêt me donnaient l'impression.
Voilà, donc on va peut-être expliquer juste pour nos auditeurs, on a vraiment un quatuor et puis deux vrais hélicoptères.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut en parler. En fait, l'œuvre est simple, c'est quatre hélicoptères, quatre interprètes. Là, en l'occurrence, c'est le quatuor Arditi, magnifiquement interprété par eux. Et donc, ils montent chacun dans un hélicoptère.
Voilà, chaque musicien est à bord d'un hélicoptère.
Et l'hélicoptère décolle. Et voilà. Et dans la salle, on entend l'enregistrement en live, du coup, normalement, de cet événement-là.
Quel impact sur le geste chorégraphique ?
Alors, cette sensation d'abord de voir ce corps qui résiste à cette espèce de turbulence permanente qui semble vouloir l'écraser au sol. Et puis, il y a tout un jeu avec une vidéo interactive, voilà, pour faire moderne. Mais qui n'est pas juste un artifice pour faire moderne, mais qui apporte énormément à la cohérence du spectacle. Et donc voilà, c'était vraiment une très très belle collaboration. D'abord, en fait, je lui ai envoyé une lettre en lui disant « J'ai écouté Hélicoptère, cher Karlheinz, j'aimerais beaucoup pouvoir faire un ballet, est-ce que vous m'autorisez ?» Il m'a répondu « Oui, allez-y, cher ami, faites donc. » Et puis, 2 ans après, c'est lui qui m'a écrit, qui m'a dit « Cher Angelin, pouvez-vous venir me voir à Kürten ? J'ai quelque chose à vous montrer. » Et donc, je suis allé à Kürten dans son atelier, laboratoire... Et puis là, il a appuyé sur un bouton, il m'a fait écouter un truc absolument incroyable.
Eldorado,
mais en fait, qui s'appelle Sonntag Abschied. Et à la fin, quand ça s'est arrêté, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez un ballet sur c'est mon dernier opus. Et il ne semblait pas si bien dire d'ailleurs, puisque c'est vraiment sous sa dernière œuvre en fait.
On pourra voir cette œuvre sur scène le 22 et 23 juin au Pavillon Noir avec Aix-en-Provence, qui est un peu votre QG, Ange d'un frais jocage, au Festival Manifeste et puis à la Grande Halle de la Villette à Paris du 28 au 30 juin, aux côtés d'une autre œuvre, une création, Still Life, qui sera donnée au Pavillon Noir à Aix-en-Provence les 22 et 23 juin, et puis à la Grande Halle de la Villette à Paris du 28 au 30 juin, Still Life, inspiré par un tableau, tiens, on y revient.
Oui, en fait, c'est plutôt... je me suis inspiré des vanités du XVIIe siècle, qui est devenu un style à part entière. En fait, c'est une sorte de dérivation de la nature morte, où on a introduit des objets qui questionnent l'activité humaine et la vanité et la prétention de l'être humain. Un crâne, des objets qui sont liés à l'activité humaine et qui montrent comment finalement l'homme a une finitude et comment finalement tout ça est-ce bien nécessaire en fait. Et donc cette question à travers la peinture m'a paru intéressante au niveau chorégraphique et j'ai développé un projet autour de ça. Et voilà, et c'est une pièce de 50 minutes qui a de la gueule.
Que vous répétez déjà là maintenant avec
vos danseurs. Qui a déjà été créée au Pavillon Noir et qu'on va reprendre pour la Villette.
On va se quitter, Angelin Prelle-Jocage, en évoquant ce spectacle, playlist numéro 1, qui sera donné du 15 au 17 décembre à Versailles. Vos plus beaux solos, duos et ensembles, extraits de plusieurs de vos créations, finalement.
Ouais.
Parmi elles, Roméo-Juliette, Serge Prokofiev. Mm-hmm. Ça vous va si on se quitte avec ça?
Allez, quittons-nous sur Roméo-Juliette.
Merci beaucoup, Angelin Prelle-Jocage, d'avoir été des nôtres ce matin.
Merci.
Juliette, jeune fille, extrait de Roméo et Juliette de Serge Prokofiev par l'Orchestre Symphonique de Chicago. Un petit rappel de ces dates pour découvrir ce spectacle, La Fresque d'Angelin Preljocage. Ce sera jusqu'au 22 décembre au Théâtre National de Chaillot. Et puis en tournée un peu partout en France. En janvier, ce sera au Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil et puis à la scène nationale Grand Narbonne. En mars, à Fréjus, La Rochelle, Arcachon, Périgueux. Et puis les 27 et 28 mars au Théâtre d'Angoulême. Vous retrouverez toutes les dates sur notre site internet francemusique.fr sur la page de Musique Matin.
À réécouter sur francemusique.fr.